Madame Gérin pour Radio Condorcet, nous sommes en direct avec la classe défense, la seconde 11 du lycée Condorcet. Chaque élève en groupe s'est organisé et vous allez écouter tout au long de l'émission les reportages qu'ils ont prévus pour vous.
Ici Bélina, Madeline et Mariana
pour Radio Condorcet. Notre thème aujourd'hui est la promesse.
Mais qu'est-ce que la promesse ?
C'est pour répondre à cette question que nous avons organisé des interviews d'élèves de première et de terminale.
Ainsi que Monsieur Fondu, professeur de français et d'HLP. Faites-vous souvent des promesses à vos amis ou votre famille ? Si oui, quel genre de promesse ?
Oui, devenir basketteur professionnel.
Non.
Plus j'ai vieilli et plus j'ai appris que la promesse, enfin pour moi c'est personnel, hein, mais la promesse c'était quelque chose qui pouvait parfois être un peu contre-productif parce que si on ne l'accomplit pas, on perd la confiance de l'autre. Et moi j'ai l'impression que plus ça va et moins j'en fais pour un peu me préserver moi et préserver la confiance que les autres ils ont en moi.
Feriez-vous encore confiance à quelqu'un qui a trahi votre promesse ?
Oui, mais ça dépend de la personne.
Non.
Moi, j'estime que vu que j'ai du mal à tenir mes promesses, j'ai tendance à beaucoup pardonner les gens qui promettent beaucoup et qui ne réalisent pas leurs promesses. Mais ça, c'est vraiment à titre personnel et je pense que certains peuvent se sentir blessés quand une promesse n'est pas accomplie. Et ça dépend aussi de l'importance de la promesse.
Respectez-vous les promesses que vous faites ?
Oui.
J'essaie la plupart du temps.
Vu que j'en fais moins, je les respecte mieux. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire moins de promesses, des promesses peut-être plus importantes, et elles s'engager, c'est-à-dire s'engager de manière certaine. Mais je pense que dans notre société, de plus en plus, on a tendance à promettre des fausses choses, des petites choses, et c'est en train de casser le sens même du mot promesse.
Pensez-vous que la promesse est une sorte de confiance vis-à-vis de l'autre personne ?
Oui, pour moi, la promesse est une dette.
Oui.
C'est une manière pour nous de nous engager sur autrui. C'est-à-dire que ça m'oblige, la promesse, à être en accord avec ce que j'ai dit moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre qui m'oblige. Et là, je vais faire un peu de philo, mais quand je promets quelque chose, ce n'est pas que c'est l'autre qui m'oblige à faire ce que j'ai promis, c'est moi-même. C'est-à-dire que dans ce que j'ai dit, je m'engage à faire ce que j'ai dit.
Donc, pensez-vous de la promesse ?
La promesse, c'est une obligation, tu dois le faire.
Si on sait qu'on va pas la tenir, faut pas faire de promesses.
Alors donc la promesse, c'est quelque chose qui est donc très large, qui a beaucoup de sens différents. C'est quelque chose qui peut vouloir dire beaucoup de choses et ça fait un peu peur quand on parle de la promesse qu'on fait à quelqu'un parce que on sait jamais très bien sur combien de temps on s'engage et si on va réussir à accepter et à accomplir la promesse. Donc la promesse, c'est quelque chose qui peut être à la fois très beau quand on arrive à l'accomplir et qu'on a la confiance de la personne à qui on a donné cette promesse, et en même temps c'est quelque chose qui est, vous le verrez en philosophie, en terminale, c'est aussi quelque chose qui plane sur nous un peu comme une menace. C'est-à-dire que si on n'accomplit pas la promesse ou si on la fait pas, on a toujours on manque la confiance de l'autre.
Est-ce que cet échange vous aura fait changer d'avis sur les promesses que vous faites ?
Non.
Non.
Alors, je pense que cet échange... ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est de voir un peu les avis des uns et des autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant que vous me posiez la question, parce que il est toujours bon sur des grandes idées, des grands concepts, de se mettre autour d'une table et d'essayer de les définir. Et réfléchir à une notion, être capable de la définir et ne pas seulement donner son avis personnel. Donc ça ne m'a pas fait changer d'avis, mais par contre, ça me permet aussi d'échanger avec vous sur mon point de vue.
Bonjour et bienvenue sur Radio Condorcet. Nous sommes la classe Défense. Vous allez écouter Adem, Samuel, Haroun et moi-même, qui allons vous présenter un reportage sur les engagements lycéens. Nous avons interviewé plusieurs personnes sur leurs opinions concernant les engagements lycéens.
Bonjour, nous avons en ce moment même Samuel Tassin, qui a accepté d'être interviewé par notre antenne. Bonjour Samuel, comment allez-vous ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de vous faire interviewer par nous. Commençons. Connaissez-vous quelques clubs ?
Oui, je connais quelques clubs, comme par exemple le Club Manga.
Ok. Trouvez-vous qu'il y a une utilité à ces clubs ?
Bah oui, parce que les élèves peuvent d'abord accroître leur culture puis leur connaissances, par exemple.
Ok. Pour vous, y a-t-il une utilité aux délégués ?
Les délégués ont une assez grosse utilité, par exemple, pour la classe, pour gérer les problèmes. Et oui, par exemple, représenter la classe aux yeux de tous les élèves.
Pour vous, les délégués normaux ont-ils un rôle majeur dans le lycée ?
Oui, ils ont un rôle majeur puisque non seulement ils représentent toutes les classes et ils peuvent par exemple participer à certains conseils du lycée et conseiller les professeurs sur comment mieux gérer certaines classes.
Ok. Connaissez-vous quelques engagements lycéens ?
Oui, par exemple, je connais le CVL qui est assez important dans le lycée puisqu'il permet d'améliorer la vie de tous les lycéens.
Tu veux dire CVL ?
Conseil de vie collégienne, de lycéenne, pardon.
Avez-vous choisi d'être dans la classe défense ?
Non, je n'ai pas choisi d'être dedans.
Bah alors, trouvez-vous ça normal d'être dans la classe défense sans l'avoir demandé ?
Bon, je ne trouve qu'il n'y a rien de particulier puisqu'il faut bien remplir les classes.
Vous en pensez quoi de cette classe défense ?
Au début, je n'avais pas beaucoup d'intérêt, je trouvais pas l'utilité de la classe. Mais maintenant, j'y porte un peu plus d'importance et je trouve qu'il y a un réel objectif à cette classe.
Ok, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
De rien. Bonjour, nous avons ce moment-même Adrien Léo qui a accepté d'être interviewé par notre antenne. Bonjour Léo, comment
Bonjour.
Allez-vous ?
Je vais bien et vous ?
Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Commençons. D'abord, connaissez-vous des clubs dans le lycée ?
Ouais, globalement, je sais qu'il y a l'AS, je crois qu'il y a un club échecs, un club maths.
Très bien, et trouvez ça vous utile ?
Oui, si les gens aiment, tant mieux.
Très bien. Pour vous, y a-t-il une utilité aux délégués ?
Forcément, c'est des porte-parole. Si toute la classe venait voir les profs d'un coup, ce serait beaucoup trop pour les profs. Forcément, il y a un seul élève pour un prof.
Donc pour vous, les délégués ont un rôle majeur dans le lycée ?
Oui, effectivement.
Très bien. Est-ce que vous avez été demandé à être dans la classe défense ?
Non, absolument pas.
Demandé ? Très bien. Et vous trouvez ça normal ?
Il n'y a pas de souci, ils font les classes comme ils peuvent. Il n'y avait pas beaucoup de demandes pour la classe défense, donc forcément, il faut remplir les classes.
Et les projets, ça vous emballe ou...
Oui, globalement, oui, j'aime bien.
Donc, très bien. Merci beaucoup.
Pas de souci.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, nous avons en ce moment même Goué Eden qui a accepté d'être interviewé par notre antenne. Bonjour Eden, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va et vous ?
Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir accepté de vous faire interviewer. Commençons. Connaissez-vous quelques clubs dans le lycée ?
Oui, j'en connais certains, dont le club de foot.
Ok, trouvez-vous une utilité à ces clubs ?
Oui, je trouve un but utile car c'est une activité extrascolaire qui permet aux jeunes de se dépenser.
Ok. Trouvez-vous une utilité aux délégués ?
Non. Car je trouve qu'il y a des surveillants et des profs pour pouvoir défendre leurs propres élèves.
Ok. Pour vous, les délégués ont-ils un rôle majeur dans le lycée ?
J'imagine que non.
Je pense que non, mais il y a quand même quelques utilités, excusez-moi, sinon ça n'aurait pas été abouti.
Ok. Avez-vous choisi d'être dans la classe défense ?
Non, je ne l'ai pas choisi, on m'a mis dedans.
Okay.
Mais je trouve ça très utile.
Okay. Trouvez-vous ça normal d'être dans la classe défense sans l'avoir demandé ?
Je ne saurais pas vous répondre, mais je pense que non, car ça doit être un choix de la personne.
Ok. Vous êtes emballé par ces projets ?
Je suis emballé, oui et non, car de une, il y a des choses positives et de deux, il y a des choses négatives. Comme les choses positives qui sont des choses extrascolaires, comme par exemple des sorties, ou bien une heure de français qui se transforme en une heure de théâtre. Les choses négatives, c'est que ça n'a pas été mon souhait personnel.
D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous souhaite une excellente journée.
Au revoir, bonne soirée.
Merci. Est-ce que vous connaissez des clubs lycéens ?
Oui, le club manga. Pareil.
Ok. Trouvez-vous une utilité à ces clubs ?
Moi, personnellement, je trouve que c'est sympa de pouvoir partager ça avec d'autres élèves qui ont les mêmes passions.
Je trouve aussi, et c'est très ingénieux du lycée.
Ok. Y a-t-il une utilité aux délégués ?
Moi, je pense que oui, parce que tout le monde ne peut pas parler au professeur, donc c'est bien d'avoir des délégués qui représentent la classe.
Et surtout, il peut défendre les personnes qui ont été causées à tort.
Ok. Pour vous, les délégués ont-ils un rôle majeur dans le lycée ?
Moyen, parce que bon, ils sont là au conseil de classe et tout ça, mais en soi, ils changent rien dans tout le lycée.
Okay. Je pense la même chose.
Ok. Avez-vous choisi de faire partie de la classe défense ?
Moi, non. J'ai appris ça à la rentrée.
Moi non plus, j'ai appris ça aussi à la rentrée.
Ok. Bah, vous regrettez d'être dans cette classe ou pas?
Bah, moi, je trouve que non, parce qu'on va faire plein d'activités et tout, et je trouve que c'est bien.
Ok, vous êtes emballé par ce projet?
Oui, plutôt. Okay. Oui, aussi.
Ok. Merci d'avoir répondu à ces questions. Bonne journée.
Au revoir.
Bonjour à tous, c'est Aya, et avec CIEM, nous avons décidé d'aborder le thème de l'humanitaire.
Nous avons donc été interviewés Cécile Figuet, une infirmière qui nous a raconté l'expérience de son voyage humanitaire.
Bonne écoute.
Salut, bonjour CIEM. Bon, ben, je vais essayer de répondre à tes questions. C'est une expérience riche, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. D'ailleurs, j'ai fait de l'humanitaire une grande partie de ma carrière professionnelle. J'ai noué des liens réels et durables avec des collègues que j'ai rencontrés dans les différents contextes. Aujourd'hui aussi, je réalise à quel point en France, nous sommes privilégiés d'avoir un service de soins aussi performant, avec un accès à la sécurité sociale aussi. Et finalement, cette expérience, elle me permet de relativiser dans beaucoup de situations difficiles de la vie. Et ce qui est moins positif, c'est que on avait des contrats de volontaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas bénévole, mais on n'est pas salarié non plus. Donc, on est logé, nourri et blanchi, le voyage est compris dedans, mais on n'a pas de salaire. Sur place, pendant les missions humanitaires, on n'a pas besoin de salaire forcément, mais... Lorsque non seulement il faut payer un loyer en France et puis plus tard pour la retraite, ces années-là ne sont pas comptées. Donc quand on ne perçoit pas de salaire, la retraite n'est pas comptée, calculée sur un salaire. Voilà ce qui peut être négatif. Par ailleurs, c'est aussi un travail difficile, même si c'est très stimulant. Mais on vit pendant de longues périodes dans des endroits éloignés et parfois dans des contextes très difficiles, d'insécurité, dans des situations dangereuses. Et souvent, les mouvements sont restreints. Donc, on passe de la maison à l'hôpital et puis de l'hôpital à la maison, mais on peut, selon les contextes, parfois pas sortir de chez soi. Les points positifs, c'est que c'est une expérience unique. J'ai pu parcourir beaucoup de pays, des endroits peu fréquentés en général. J'ai pu passer aussi des congés dans les pays frontaliers. J'ai fait des rencontres très intéressantes. En général, dans l'humanitaire, les travailleurs internationaux viennent de nombreux pays différents et de cultures différentes. Et le fait d'avoir pu travailler en collaboration avec des gens et des points de vue différents ont été plutôt gratifiants. J'ai été capable aussi de changer de rôle. Bien que je sois infirmière, j'ai pu avoir l'occasion de faire de la coordination et de la gestion de projet. Et par conséquent, j'ai développé un large éventail de compétences que je n'aurais pas eu si j'étais restée dans mon métier d'infirmière hospitalière en France.
Vous venez d'entendre la promesse. Nous, Mariam, Lia, Aurélie et Janelle, nous allons vous parler de notre engagement qui est le bénévolat. Vous le connaissez tous.
Devenir bénévole, c'est choisir de participer à une communauté d'énergie, de talent, d'expertise et de savoir-faire. Et de rejoindre des associations qui œuvrent pour accompagner ceux qui en ont besoin et améliorer notre monde et permettre à tout le monde de s'épanouir.
Le bénévolat sert à aider les personnes sur un attendant retour, par exemple ne pas être payé. Nous connaissons différentes associations qui sont bénévoles autour de nous, comme US Mérus Andricourt et les Restos du Cœur. US Mérus Andricourt est une association sportive située à Mérus qui bénéficie de différentes aides lors des matchs. Ils préparent des repas pour les joueurs, cela est gratuit pour eux, et d'autres repas qui sont vendus avec l'argent gagné. Ils rénovent le stade. Les personnes qui préparent les repas ne sont pas payées, ils sont donc bénévoles. Les Restos du Cœur aident les plus démunis en leur offrant des repas gratuitement.
Bonjour, qu'est-ce que tu penses du bénévolat ?
Je trouve que le bénévolat, c'est bien et ça permet d'aider les gens en difficulté.
Le bénévolat, c'est bien parce que ça vient à aider des entreprises, etc. Mais gratuitement pour les entreprises, c'est-à-dire les entreprises, tout ce qu'elles gagnent comme argent, eh ben, c'est pour elles et elles ne le rejettent pas directement à d'autres personnes.
Alors, le bénévolat est quelque chose qui a un but non lucratif. Alors, ça sert à aider les personnes qui sont dans le besoin.
C'est bien et c'est pas bien parce que pour l'employeur, c'est bénéfique, mais pour le bénévole, ça peut être une expérience.
Le bénévolat, je trouve que c'est bien, c'est intéressant et ça peut aider les personnes en difficulté.
Le bénévolat est l'action de la personne qui s'engage librement sur son temps personnel pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui et au bénéfice d'une cause et d'un intérêt collectif.
Je pense que le bénévolat est une bonne chose, car le bénévolat est l'action de la personne qui s'engage librement sur son temps personnel et pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif. Donc, les associations, ça peut servir à des engagements.
Bonjour, nous sommes Bisson Sarah
et Gonzalez Emma. Nous sommes des lycéennes de seconde du lycée Condorcet et nous allons vous présenter une chronique sur l'engagement sportif.
Nous abordons ce sujet car nous sommes nous-mêmes engagées dans le sport. Nous faisons partie du club de handball féminin à Chambly.
Donc l'engagement sportif est la motivation d'un sportif à contribuer à la réussite de son club. Il existe trois facteurs de l'engagement sportif. Tout d'abord, s'engager individuellement, c'est-à-dire pour soi-même, sa santé physique et mentale. Comme sport individuel, nous avons la marche ou encore le footing.
Il y a ensuite le facteur collaboratif qui consiste à s'engager auprès d'une équipe, d'un club, faire des rencontres, etc. Le facteur collaboratif intervient surtout dans des sports collectifs comme le football, le handball ou encore le volleyball. L'esprit d'équipe est donc très important. L'engagement sportif, ce n'est pas seulement être joueur, mais aussi être arbitre ou encore coach. Un autre facteur est le facteur associatif qui consiste à collecter des fonds pour soutenir des personnes en difficulté ou encore financer des projets. Nous avons nous-mêmes aidé une association nommée ELA qui consiste à collecter des fonds pour des enfants malades. Tous les sports sont des associations qui permettent de financer leurs clubs, équipements, etc. D'où l'intérêt de payer des licences. Comme exemple, nous avons la FFF qui est la Fédération Française de Football.
De grands événements sportifs ont lieu à travers le monde, comme les Jeux Olympiques, notamment ceux de 2024 qui se dérouleront à Paris, mais aussi la Coupe du Monde qui existe dans plusieurs sports, comme le football, le rugby, le handball et encore plein d'autres. Par exemple, cette année, il y a eu la Coupe du Monde du handball féminin et c'est la France qui l'a remportée.
Bonjour, nous sommes Aya Smaili, Fatou et Melinda et nous allons vous présenter notre projet sur la discrimination physique.
La discrimination physique est le fait de traiter une personne différemment en raison de caractéristiques personnelles et l'empêcher d'exercer ses droits.
Il peut avoir plusieurs conséquences. C'est illégal en France et peut entraîner des sanctions juridiques, avoir des amendes, poursuites judiciaires et peines de prison.
Pour ce projet, nous avons fait un micro-trottoir et nous avons interrogé plusieurs lycéens pour savoir leur avis.
Bonjour, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à parler sur la discrimination physique. Le groupe se compose de Fatou, Melinda et Aya Smaili. Donc là, nous allons passer au témoignage des lycéens pour savoir quel est leur avis sur ce sujet-là. Alors Lucie, que penses-tu de la discrimination physique ?
Je pense que la discrimination physique peut affecter certaines personnes en leur faisant ressentir de l'exclusion, de l'injustice et de la baisse d'estime de soi. Cela peut également limiter leurs opportunités et leur accès à certains domaines de la vie, tels que l'emploi ou les relations sociales. La discrimination physique est injuste et il est important de promouvoir l'inclusion et l'égalité pour tous.
Que penses-tu de la discrimination physique ?
Je pense que la discrimination physique, c'est pas bien, parce qu'on peut pas ne pas aimer quelqu'un par rapport à son apparence.
Et toi, que penses-tu de la discrimination physique ?
Je trouve que la discrimination physique, de nos jours, ça devient extrêmement banalisé, malheureusement, et que c'est souvent entre les enfants qui s'insultent, etc., et ça peut avoir de gros impacts sur le moral.
Et toi, Awa, que penses-tu de la discrimination physique ?
Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien et qui devrait cesser. Et chaque personne qui est victime devrait en parler à un adulte. Pour moi, c'est un bon sujet à traiter, car dans ce monde, c'est pas très... ça va jamais disparaître. Il y aura toujours des personnes qui en seront victimes sans que personne ne les défende. Je pense aussi que c'est pas bien de traiter quelqu'un par rapport à son physique, car au fond, cette personne peut être une bonne personne.
Et du coup, tu penses quoi de la discrimination physique ?
Bon, je pense que c'est inutile parce que ça vexe et ça peut complexer certains élèves qui sont sensibles à cela. Ouais, c'est carré.
Que penses-tu de la discrimination physique ?
Alors moi, je pense que la discrimination physique est une atteinte à la santé mentale d'autrui. C'est une forme de harcèlement qui peut détruire des vies, voire passer au suicide. Nous ne pouvons pas juger une personne par rapport à son physique. Nous sommes tous différents et créés de manière différente.
Bonjour, ici Prisca, Marwa et Lachouana. Nous allons vous présenter notre sujet sur l'engagement militaire.
Nous avons créé un micro-trottoir pour vous faire part des opinions des personnes interrogées sur le sujet.
Bonjour, ici Prisca, Marwa et Lachouana. Nous allons vous présenter notre sujet sur l'engagement militaire.
Nous avons créé un micro-trottoir pour vous faire part des opinions des personnes interrogées sur le sujet.
En vrai, les gens qui s'engagent dans l'armée, c'est pour servir leur pays. Parce que c'est des gens qui sont attachés à leur pays et qui veulent défendre leur pays, ainsi que tous les citoyens de ce pays.
D'accord. Connaissez-vous les différentes armées ?
J'ai l'armée de terre, l'armée de l'air, oui. La marine. Et après, tu as des métiers comme les gendarmes qui sont considérés un peu comme militaires aussi. Et après, c'est tout.
Il n'y a pas d'autres métiers pour vous ?
Après, tu as les médecins de l'armée aussi.
Oui.
Tu as les médecins de l'armée, tu as quoi encore ? Je sais pas les filles.
Pompiers.
J'y pensais, mais je n'étais pas sûre. Parce qu'en fait, ils disent que c'est souvent les pompiers de Paris qui sont considérés comme militaires, et pas les autres. C'est les pompiers de Paris, c'est spécial.
Merci.
Les personnes qui s'engagent donc, dans tout ce qui est grade militaire, que ce soit militaire, que ce soit les gendarmes ou les pompiers parfois, comme les pompiers de Paris, ils font le grade militaire, c'est des personnes qui veulent tout simplement qui veulent aider la population, ils veulent s'engager à aider la population. Et, voilà.
Merci.
Bonjour à tous, nous sommes Ambre, Ruth et Louise, élèves du lycée Condorcet de Méru. Nous sommes sur Radio Condorcet et nous allons aborder le thème du racisme.
Le racisme est une discrimination envers un groupe d'humains. Cette idéologie part du principe qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine.
Il existe différents mouvements qui militent contre le racisme, comme Black Lives Matter. Ce mouvement est né au sein de la communauté afro-américaine qui milite contre le racisme envers les personnes de couleur noire, notamment contre les violences policières. Pour ce faire, nous allons interroger des personnes pour savoir ce qu'ils pensent de cette discrimination.
J'ai quelques questions à vous poser à propos du racisme. Selon vous, qu'est-ce que le racisme ?
Pour moi, le racisme, c'est le fait de séparer les gens par rapport à leur couleur de peau, leur classe sociale ou leurs origines.
Alors, avez-vous déjà subi du racisme ?
Oui, j'ai subi beaucoup de racisme pour mes origines et pour ma religion aussi.
Ok. Et comment agisserez-vous lorsque vous subissez des remarques racistes ?
En vrai, pour être honnête, je reste calme. Je ne m'embrouille pas avec la personne parce que justement, je ne veux pas leur donner raison. Je ne veux pas leur donner la satisfaction de voir que je m'énerve en fait. Donc en général, je réponds à la personne poliment. Et je la remets en place et je lui rappelle que je suis française.
Bah, tu vas où ?
Seriez-vous prêt à intervenir devant quelqu'un victime de propos racistes ? Et voyez-vous cette intervention comme de l'engagement ?
Alors oui, parce que j'estime que intervenir sur ce genre de choses, c'est important. J'estime que c'est la même chose qu'une agression, parce que ça peut justement mettre au plus mal une personne. Et j'estime que oui, c'est un engagement. Je pense qu'il faut montrer aux gens, justement, en intervenant, que le racisme n'a rien à faire dans notre société.
D'accord, merci.
De rien.
Connaissez-vous des célébrités qui militent contre le racisme et est-ce qu'elles vous inspirent ?
Oui, je connais Martin Luther King et actuellement Kylian Mbappé. Elle m'inspire parce que c'est des personnes qui ont lutté contre le racisme. Et le racisme, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, ça nous aide à nous ne pas être racistes ou faire des actes racistes. Et donc, ça nous montre ce qui s'est passé dans le futur, dans le passé, qu'il faut pas le reproduire là, dans le présent, et qu'il faudra pas le reproduire dans le futur, parce que c'est mauvais, il y a des personnes qui le prennent mal, et il faut qu'on soit tous pareils, peu importe notre couleur de peau.
Ok, merci.
De rien.